Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 27 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, la justice a précisé ses accusations contre Guillaume Soro, disant que le candidat à la présidentielle de 2020 et ex-chef rebelle préparait une insurrection civile et militaire.
En République centrafricaine, Bangui renoue avec ses vieux démons. Au moins 30 morts dans de nouveaux affrontements entre miliciens et commerçants au PK5.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition propose une transition et une présidentielle en 2023, sans le président Denis Sassou Nguesso à la tête du pays depuis 35 ans.
Ici à Washington, le président Donald Trump poursuit ses attaques virulentes contre les parlementaires démocrates qui ont voté récemment sa mise en accusation à la Chambre basse.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou revendique une immense victoire à l'élection primaire du Likoud, son parti.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, la justice a précisé hier ses accusations contre Guillaume Soro. Selon elle, l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Des accusations balayées par sa défense. Des détails avec Irénée Herman Umbo.
Ces accusations s'appuient sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens, diffusé pendant la conférence de presse par le procureur d'Abidjan, Richard Hadj.
Une information judiciaire a été immédiatement ouverte contre M. Soro Tibafori Diom pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État.
M. Adou n'a pas précisé où, ni quand, ni comment cet audio a été réalisé, se retranchant derrière le secret de l'enquête. Le procureur indique aussi avoir effectué une quinzaine d'arrestations de complices de Guillaume Soro. La réaction de sa défense ne s'est pas fait attendre, Maître Afousiata Bamba Lamine réplique.
Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après, et pourquoi l'audio est-elle incomplète?
Dans une précédente déclaration, Maître Bamba Lamine dénonçait une machination politique destinée à écarter de la course à la présidentielle de 2020 M. Soro, longtemps allié du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro s'est ensuite brouillé avec lui jusqu'à la rupture début 2019, le chef de l'État voulant brider ses ambitions présidentielles selon des observateurs.
Au Burkina Faso, la justice a condamné hier le polémiste franco-béninois et fondateur du mouvement Urgence panafricaniste Kémi Séba à 2 mois de prison avec sursis pour outrage au président Roch Kabore, et ce au terme d'une audience en comparution immédiate. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou lui a aussi infligé une amende de 200 000 francs CFA, le reconnaissant coupable également d'outrage à des chefs d'État étrangers, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Nigérien Mahamadou Issoufou. Écoutons la réaction de Kémi Séba après l'annonce du verdict.
Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais, la mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres et il faut qu'ils comprennent que la prison... C'est la 4e fois qu'on me met dedans et à chaque fois je ressors plus fort. Et même si on me tue, la jeunesse africaine est bien plus déterminée qu'on peut l'imaginer, donc rien ni personne ne nous arrêtera, l'Afrique libre ou la mort.
Au Niger, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier que 14 militaires ont été tués et un autre porté disparu mercredi dans une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. L'ennemi, quant à lui, a subi de nombreuses pertes, assure le ministère, sans préciser leur ampleur. C'est dans cette même région de Tillabéri, proche du Mali, que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre dans la pire attaque djihadiste depuis 2015 au Niger. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique.
Au Congo-Brazzaville, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a estimé hier que les conditions ne seraient pas réunies pour l'organisation d'une présidentielle en 2021. Le principal parti d'opposition congolais propose une transition et un scrutin en 2023, sans la participation du président Denis Sassou Nguesso. Précision de Jacques Aristide.
Ce parti d'opposition suggère la prorogation jusqu'en 2023 du mandat du chef de l'État avec tous les pouvoirs constitutionnels et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine présidentielle. Pour Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine, il ne peut y avoir d'élection crédible en l'absence d'un corps électoral fiable. Il croit que l'introduction de la biométrie, la restructuration de la commission électorale et le découpage électoral ne peuvent être réalisés en moins de deux ans en tenant compte du programme avec le Fonds monétaire international. D'après la Constitution, le président Denis Sassou Nguesso, qui a 76 ans, compte 35 ans à la tête du Congo-Brazza, a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. Après le scrutin de 2016, deux candidats malheureux, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major de l'armée, et l'ancien ministre André Okombi Salissa, ont été arrêtés avant d'être jugé et condamné chacun à 20 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre.
En République centrafricaine, de nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants ont eu lieu mercredi et jeudi dans la capitale. Bilan au moins 30 morts au PK5, quartier majoritairement musulman de Bangui, devenu l'une des zones les plus dangereuses de la ville depuis 2014. Ni la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible jeudi, la MINUSCA se contentant d'évoquer des dizaines de victimes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a continué à s'en prendre vivement aux parlementaires démocrates pour son impeachment à la Chambre des représentants contrôlée par ces derniers, alors que persiste l'impasse sur son futur procès devant le Sénat, contrôlé par son parti républicain. M. Trump a particulièrement fustigé la décision de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, de retarder la remise des articles de mise en accusation à la Chambre haute en vue de ce procès. Il a traité les démocrates de menteurs. Suite à un vote essentiellement partisan, M. Trump a été le troisième président de l'histoire des États-Unis à être impeached. Il est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès, ce qu'il dément avec véhémence.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption, a annoncé ce vendredi avoir remporté une immense victoire à l'élection primaire du Likoud, son parti, qu'il conduira de nouveau aux législatives prévues en mars. Le député et ancien ministre Gideon Saar avait peu de chances de l'emporter face à M. Netanyahou à la tête du Likoud depuis 1993, hormis 6 ans où le parti était dirigé par Ariel Sharon. Mais des résultats serrés auraient pu fragiliser le Premier ministre. Résultat final, 72,5% pour le chef de gouvernement, 27,5% pour son rival.
Le président irakien a aggravé un peu plus la crise politique jeudi en mettant sa démission dans la balance et expliquant qu'il refusait de proposer au Parlement le nom du candidat des pro-Téhéran pour le poste de Premier ministre. Alors que la situation politique semble de plus en plus imprévisible entre l'intransigeance des pro-iraniens et celle des manifestants, le grand ayatollah Ali Sistani, dont les sermons ont été jusqu'ici décisifs, a annoncé jeudi que son prêche n'évoquerait pas la situation politique ce vendredi. Cette figure tutélaire de la politique dans le pays a déjà pris ses distances avec les politiciens conspués depuis 3 mois par une révolte inédite, parce que spontanée, déjà marquée par près de 460 morts et 25 000 blessés.
En Iran, un séisme de magnitude 5,1 a secoué vendredi la région du sud-ouest où se trouve la centrale nucléaire de Bushehr, a indiqué l'Institut géologique américain. La secousse a été ressentie dans la campagne autour de la ville de Kalameh, à 45 km à l'est de Bushehr, sans qu'il n'y ait de dégâts constatés dans l'immédiat, a rapporté l'agence de presse ISNA, qui citait un responsable iranien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
NCA Banque Côte d'Ivoire a signé un accord de financement d'un montant de 5 milliards de francs CFA avec l'Agence française de développement dans le cadre de l'initiative Choose Africa en Côte d'Ivoire, révèle l'agence Ecofin. Ce programme a pour objectif d'accompagner le développement des start-up, des TPE, très petites entreprises, et des PME, petites et moyennes entreprises en Afrique. Il permettra de favoriser l'émergence de projets entrepreneuriaux éco-responsables en Côte d'Ivoire. Choose Africa a déjà investi près de 100 millions d'euros en faveur des petits projets dans ce pays. L'Institut national des sciences et technologies de la mer de Tunis a lancé le projet Common pour le traitement des déchets marins en Méditerranée. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 2,2 millions d'euros, vise à créer une plateforme pour la gestion intégrée des déchets marins en Méditerranée. L'objectif est de lutter contre ces déchets en appliquant les principes de la gestion intégrée des zones côtières dans 5 zones pilotes en Tunisie, en Italie et au Liban, afin de promouvoir une approche participative efficace associant les parties prenantes et les communautés locales. Pour terminer cette minute éco, le Gabon construira une route longue de 49 km sur la rivière Ngongo entre Ndendé-Doussala et le Congo-Brazzaville grâce à un prêt de 140 millions d'euros de la Banque africaine de développement, publie l'agence Ecofin. Les fonds permettront aussi de construire et de bitumer près de 21 km de voirie à Libreville, dont bénéficieront environ 100 000 personnes.
Les sports à présent avec Eric Manirakidza. Zlatan Ibrahimovic de retour dans le calcio.
Tout à fait, Idrissa. Après les États-Unis, Zlatan Ibrahimovic a trouvé un accord avec l'AS Milan pour rejoindre son ancien club pour une durée de 6 mois, affirmaient plusieurs médias italiens jeudi. D'après la Gazzetta dello Sport, le Suédois a accepté l'offre du club lombard et devrait arriver à Milan dans les prochains jours. Selon les médias, Ibrahimovic arriverait à Milan avec un contrat de 6 mois estimé à 3 millions d'euros et assorti d'une option d'une année supplémentaire. Libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy, l'attaquant de 38 ans devrait être disponible pour le prochain match de l'AS Milan le 6 janvier contre la Sampdoria. Ibra, qui est à l'arrêt depuis la mi-novembre, aura besoin de 2 à 3 semaines pour retrouver une bonne forme, précise toutefois la Gazzetta. Ibrahimovic a joué 2 saisons à l'AS Milan entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matchs, contribuant largement au dernier titre de champion décroché par le club italien à l'issue de la saison 2010-2011.
Le Boxing Day en Premier League en Angleterre, où le lendemain de Noël est un grand jour de foot.
Le lendemain de Noël n'a pas été simple pour Tottenham, qui a mis toute une période en rentrée dans son match contre Brighton, qu'il a fini par remporter 2-1 pour la 19e journée de Premier League. Les Londoniens remontent provisoirement la 5e place avec 29 points à 3 longueurs de Chelsea, 4e. Battu tactiquement et dans l'envie par Chelsea, 2-0. Dimanche, les Spurs devaient une réaction à leurs supporters.
Leicester n'a pu tenir face au leader Liverpool.
4-0, c'est le score qui a sanctionné ce duel au sommet de ce lendemain de Noël avec le déplacement du leader Liverpool chez son dauphin Leicester. Avec cette victoire, Liverpool, qui a plus de 10 points d'avance sur son dauphin, garantit ses chances de finir leader de la Premier League. Ce soir, pour la 19e journée de Premier League, City aux aguets va tenter de prendre la 2e place face à Wolverhampton. Et avant de nous quitter, Idrissa, on parle de la NBA et vous avez quelques résultats, n'est-ce pas?
Oui, Detroit et Washington 132-102, Dallas et San Antonio 102-98, New York et Brooklyn 94-82, Memphis et Oklahoma City 110-97, et pour les résultats des matchs Minnesota et Sacramento, eh bien, ce match est toujours en prolongation, et Utah et Portland qui se poursuit, rendez-vous à 7h temps universel.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le secteur de la justice est paralysé par un mouvement de grève de 48 heures entamé hier par les magistrats à l'appel de leur syndicat. Motif ? Protester contre la récente révision du statut de la magistrature pour davantage offrir l'accès à la fonction de juge à davantage de citoyens. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Beaucoup d'usagers des services de justice étaient désabusés jeudi matin au tribunal de Niamey où presque tout était à l'arrêt.
Je viens juste de rentrer pour pouvoir avoir une autorisation pour aller voir un ami qui a été arrêté. On me dit que les magistrats sont en grève et il faut le lundi. Et moi, j'ai vraiment voulu le voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment décevant.
J'étais venu pour mon nationalité là. Et puis, on m'a dit qu'il y aura un grève pour les magistrats. Vraiment, ça m'a fait retarder vraiment un peu en arrière parce que moi, je voudrais rentrer à l'OME d'ici deux jours. Donc, vraiment, je suis mécontent, vraiment. Vraiment, je suis mécontent de cela.
Par ce mouvement, les magistrats entendent faire revenir le gouvernement sur l'adoption par le Parlement d'une modification du statut de la magistrature nigérienne. Yahaya Doubou, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN.
C'est dans la rue qu'on a appris que notre statut est en train d'être modifié. Le ministère de la Justice avait inséré dans le projet un terme qui est très flou pour être recruté dans une fonction publique. Le terme certificat. Un État qui se dit responsable ne peut pas recruter un fonctionnaire du haut niveau qu'un magistrat sur la base d'un certificat. Dans tous les textes de la sous-région, c'est la maîtrise ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Et nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays où on a besoin d'une justice de qualité, que les gouvernants, en tout cas, puissent faire des recrutements déguisés pour avoir des juges taillables et corvéables. La grève, elle est largement suivie à plus de 100% parce que même ceux qui ne sont pas magistrats au tribunal nous soutiennent.
Pour le garde des Sceaux, cette modification du statut n'est que justice rendue. Mourou Amadou.
Ça va désormais permettre à tous les Nigériens, titulaires de la maîtrise ou du master 1, de pouvoir concourir pour accéder à l'école de formation judiciaire du Niger pour obtenir le diplôme de magistrat. Ceci n'est que justice, ceci n'est qu'équité, parce que les deux premières promotions de l'FJN l'ont été sur la base du Master 1. Entre-temps, était intervenue une loi de 2018 qui avait élevé, si vous voulez, le niveau pour concourir à un diplôme de troisième cycle, ce qui pour nous est inacceptable.
Sur le mouvement de grève, le ministre de la Justice estime que, vu son caractère illégal, le gouvernement envisage de prendre les mesures pour que les magistrats eux-mêmes respectent la loi. La modification étant adoptée par l'Assemblée nationale, il reste la promulgation de la loi par le président de la République. Le syndicat des magistrats plaide auprès de celui-ci, parallèlement au mouvement de grève, pour qu'il renvoie le texte en seconde lecture au Parlement. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la justice a donc précisé jeudi ses accusations contre Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020. Il préparait, selon elle, une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Des accusations balayées par sa défense. Notre correspondant Siriki Barrault a recueilli les réactions d'habitants de Boaké, ex-fief de la rébellion que dirigeait M. Soro.
Moi, c'est Koulibaly, par rapport à cette histoire de Soro, tel que nos vieux parents nous disent que quand on est plus pratique que la musique, on danse mal. Donc, moi, je trouve que Soro, il est en train de préparer une vaccin. C'est un chemin qui va le mettre à la dérive. Puisque nous, on ne voit pas ce qu'il peut nous montrer encore, et puis ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici, que ce gouvernement n'a pas encore réalisé. C'est lui qui, au temps des rébellions, c'est lui qui nous a toujours dit que c'est Alassane Ouattara qui est leur mentor. Alors, il connaît cet homme-là, il sait de quoi il est capable. Moi, je ne vois pas ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici.
par rapport à ce qui est en train de faire aujourd'hui. Je trouve qu'il a des mauvais conseillers à court de lui. Ils sont en train de pousser dans un tour pour pas s'en sortir.
Bon, pendant 5 ans, le pays avance et cherche à venir en arrière. C'est même pas que je l'ai envoyé à Rome pour la Côte d'Ivoire. S'il pouvait se retourner en famille, je crois que c'est très bien. C'est trop difficile, quoi. C'est pas joli à voir, quoi. C'est très bien. On en a marre de la guerre. Chaque fois la guerre, là, ils n'ont pas cherché à se réconcilier normalement. Les trahisons, ils n'ont pas arrêté. C'est pas joli à voir. La Côte d'Ivoire est trop évoluée pour ça, quoi.
Sincèrement, M. Sourou Bakouri Guillaume ne pouvait pas rendre sa démission, comme on appelle, à l'Assemblée nationale, qui a été vraiment une grave erreur de sa part. Je dirais aussi qu'il s'est pressé. Parce que d'avis, tout le monde pensait que après la fin du mandat du président Ouattara, c'est lui qui sera son successeur. Il a été vraiment un peu pressé.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République démocratique du Congo, un colonel a été condamné hier à 5 ans de servitude pénale pour crimes contre l'humanité, spécifiquement pour viol, vol, pillage, meurtre et torture dans les affrontements avec les groupes armés dans l'est du pays. Le colonel Safari Katietea était jugé pour les violences commises par ses troupes contre les villages de Karimba et Musinziro au sud Kivu en 2012. Eddie Sango a joint un des membres de la coalition pour la justice internationale de Bukavu, Descartes Mpongé.
Le verdict est tombé, il a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme pensent que le verdict est faible par rapport aux faits qui lui sont reconnus. Mais pour nous, nous disons que la condamnation c'est une chose, mais l'exécution de la peine en est une autre. Comme les études qui ont été menées par une structure à Kadosha de 2007 jusqu'en 2014, qui a fait l'inventaire de toutes les décisions rendues par la justice en matière de violences sexuelles dans la province du Sud, dans les 10 juridictions. Ces études ont montré que, effectivement, c'est seulement 51% des personnes condamnées qui arrivent à purger leur peine, mais c'est autour de 0,1% seulement d'indemnisation pour les violences sexuelles. Donc, on ne pouvait pas mettre plus l'accent sur le taux de la peine, mais au contraire, c'est l'exécution de la peine. Qui dit que, est-ce que le colonel qui a été condamné va passer les 5 ans en prison, compte tenu de ces statistiques-là, nous dit-on. Mais aussi l'indemnisation. Est-ce que les victimes ont reçu l'indemnisation qui est due ou bien elles ont la chance de la recevoir? Je dis que non, parce que l'expérience du passé nous a montré qu'effectivement, on peut rendre une décision, on peut avoir une décision de justice, mais si on n'arrive pas à l'exécuter, c'est un défi permanent. Et c'est ce qui fait que les victimes toujours ont des réflexes pour revenir à l'arrangement amiable entre les victimes et les bourreaux.
Le colonel Safari Katietea a été condamné pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ici pour quels faits exactement?
Il a été condamné pour les faits de violence sexuelle commis pendant les opérations, mais ce n'est pas la première condamnation dans ce contexte. Et vous allez vous rappeler de la décision qui a touché le colonel Sidibe avec les violences sexuelles à Niakienne. Donc, je n'ai pas le premier à être condamné à ce niveau-là. Il y a beaucoup de jurisprudence, mais le grand défi reste la mise en œuvre de toutes les décisions qui ont été rendues par la justice. Le système carcéral congolais est défectueux, à moins qu'on l'amène ici à Kinshasa, à Makala. Mais il n'y a que des volontaires qui restent dans les prisons, dans beaucoup de cachots et à Nigo et prisons en RDC. Il a été condamné pour responsabilité du chef unique.
Est-ce que l'État a été aussi condamné parce que lui, il était commandant dans cette région, précisément, à Walungu?
Oui, naturellement. Mais l'État congolais n'arrive même pas à exécuter même ses propres condamnations. Les condamnations que la justice prononce, une solidité avec l'État congolais.
Descartes Mpongé, membre de la Coalition pour la justice internationale de Bukavu.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Ici aux États-Unis, 2019 a commencé par des acclamations au Congrès lorsqu'un nombre record de femmes et de membres des minorités ethniques et religieuses ont prêté serment pour devenir législateurs. Mais quand les 435 députés et 100 sénateurs se sont mis au travail, les politiques de nature partisane ont bien souvent freiné les progrès au sein de ce Congrès très polarisé. Caroline Presutti s'est penchée sur le bilan annuel des législateurs américains. Son reportage repris ici par Dilidico.
L'année a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont ainsi eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine.
Il n'y a pas de période d'échauffement. Nous sommes arrivés le 3 janvier, nous avons prêté serment et dans les heures qui ont suivi, nous avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement.
Mais le gouvernement fédéral est resté fermé jusqu'en fin janvier, retardant jusqu'à février le discours annuel du président au Congrès.
Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions.
Ces aspirations se révèlent rarement réalistes lorsqu'un des partis, dans le cas présent les démocrates, détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre parti, les républicains, détient la majorité au Sénat.
Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une impasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage.
À la mi-décembre, le Congrès avait adopté 90 projets de loi qui sont par la suite devenus des lois, faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. Comme pour en renchérir à l'impasse, cette année, les audiences de destitution du président Trump ont monopolisé la Chambre des représentants.
Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur.
À la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada.
Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation.
Quant au projet de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont cette année été mis au second plan. Néanmoins, un accord budgétaire de fin d'année a permis de financer la recherche en matière de sécurité autour des armes à feu et également la construction de certains murs frontaliers. L'âge d'achat des produits dérivés du tabac a été augmenté à 21 ans. Sur le plan international, 2019 a donné lieu à de nouvelles lois favorisant les droits de l'homme et l'autodétermination pour les Hongkongais.
Nous sommes reconnaissants au président d'avoir signé cette loi.
Du côté de la défense, les efforts du Congrès visant à interdire la vente d'équipements militaires à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie ont tous échoué en raison de veto présidentiel. Pareil pour les efforts visant à mettre fin à la participation des États-Unis à la campagne militaire de l'Arabie Saoudite au Yémen. Selon les experts, cette lancée productive du Congrès devrait prendre fin en janvier lorsque la campagne va battre son plein en vue de la présidentielle de 2020.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zainab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.